Le titre de la prédication ce matin, c'est « La résurrection avant Jésus ». Alors, j'ai testé ce titre la semaine dernière auprès de 2-3 personnes, et au vu de leur réaction, je me suis dit « c'est peut-être pas un bon titre ». Alors, je vous laisse juger de cela à la fin, pour savoir si ça convient ou pas. « La résurrection avant Jésus ». Ce qui va être peut-être plus utile, c'est de fixer le but. Qu'est-ce qu'on va achever après la prédication ensemble, nous ? Nous allons, je vous le propose, hein, vous pouvez le rejoindre ou pas comme projet, mais je vous propose de vérifier que notre foi en Jésus-Christ, ressuscité des morts, est bien solide, cette foi. Elle est vive. Elle est établie fermement. Vous connaissez la difficulté peut-être de l'assentiment intellectuel, c'est-à-dire on comprend quelque chose et oui, a priori, ça a du sens. Et puis, la confiance profondément enracinée dans cet être intérieur très profond, dans notre esprit, dans notre âme, qui est une confiance, un repos inébranlable, qui va plus loin ou à côté ou en dessous, au-dessus de l'intellect. C'est le fameux binôme, vous en avez peut-être entendu parler, entre croire et comprendre. Faut-il croire pour comprendre ou faut-il comprendre pour croire? Vous avez 2 heures. Donc, c'est pas à trancher en fait. C'est pas tranché, mais il semble bien que les deux soient valides, qu'il faille effectivement croire pour comprendre, mais que, et nous le savons dans le courant protestant en particulier, la pédagogie, l'enseignement, la connaissance des Écritures a été fondamentale pour, donc la compréhension a été fondamentale pour croire. La raison, donc le but, voilà, vérifier que notre foi est établie, elle est sans faille, si possible. L'arrière-plan, ce sont les prédications de Pierre suite au dimanche de Pâques, dimanche de la résurrection. L'arrière-plan de l'incrédulité soulignée dans les textes du Nouveau Testament, dans les récits de la résurrection. L'incrédulité, elle est partout, elle est chez tout le monde. Et pas seulement chez Thomas, justement, hein, tu nous l'as bien dit, en fait, tous les apôtres n'y croyaient pas, et on avait beau le leur dire. Alors, ce qui va être intéressant, c'est de voir comment Jésus s'y est pris pour surmonter cette incrédulité, et en regardant comment il s'y est pris, ça va nous aider, nous, du moins, nous l'espérons. Et puis, on ne va pas seulement regarder comment Jésus a fait, mais aussi comment les premiers témoins, notamment Pierre, a communiqué cette nouvelle réalité, Jésus-Christ corporellement ressuscité. J'utilise le mot corporellement pour dire avec son corps, qui mange des poissons, qui mange du pain. Voilà. Donc on va dans un premier temps copier Jésus et ses disciples, notamment Pierre et Paul. Avant cela, je voudrais poser le décor d'un test. Il paraît qu'en pédagogie, on peut vérifier ou contrôler les acquis. Peut-on contrôler les acquis ? Hein, je vois des professionnels qui disent « oui, on peut contrôler les acquis ». Alors, on va essayer de contrôler nos acquis à travers une petite histoire, une mise en scène. Je vous en raconte le décor maintenant et je reprendrai cette petite scène à la fin. Si j'oublie, vous me le rappelez. Ah. Alors, ce test s'appelle le test de la paella. Alors, dimanche prochain, imaginez que vous êtes dans votre file d'attente avec votre assiette, vos couverts, et vous allez bientôt être servi de cette très bonne paella. Et là, il y a un petit enfant qui vient, il a une dizaine d'années environ, il vous tapote le bras, et il vous regarde, et il vous dit... 2 points, ouvrez les guillemets, et là, on va en s'arrêter là pour le décor. Et on verra ensuite à la fin de la prédication. Revenons donc sur les façons de faire de Jésus dans un premier temps. Comment s'y est-il pris pour surmonter l'incrédulité, la stupeur même, hein, la peur des disciples? Eh bien, il a fait essentiellement deux choses. Il s'est montré lui-même. Il a dit, venez, regardez, un esprit n'a pas d'os et de chair comme moi. Est-ce que vous avez quelque chose à manger? Il a partagé du pain. Il était bien là. Et cela ne nous est pas accessible, du moins pas en temps ordinaire dans la vie de l'Église. Donc, Jésus a ajouté à cela un autre outil pédagogique qui s'adresse à notre cœur et à notre esprit. Il y a ajouté la parole de Dieu, les écrits. Vous vous souvenez de Cléopas et de son ami qui ont cheminé et qui ont entendu une étude biblique que plus d'un pasteur aurait bien aimé entendre aussi. Je vous rappelle donc sur ce chemin d'Emmaüs, il y a deux disciples, je dis Cléopas parce qu'on ne connaît pas le nom du second, mais Cléopas est nommé, et donc deux disciples se promènent, ils rejoignent la ville d'Emmaüs, le village, et ils cheminent, ça doit faire à peu près 5 km de mémoire, et Jésus fait comme si, et puis il leur reproche, mais il leur dit spécifiquement ceci. Ô homme sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Et, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Je viens de lire Luc 24, au verset 25 à 27. Donc, Jésus-Christ est en train de prendre les textes disponibles à ce moment-là pour dire mais ces textes-là parlent de moi et je vais vous montrer où. Alors, on va transformer cette matinée en séminaire théologique. Vous allez vous mettre par groupe de deux ou trois, vous allez faire une randonnée de 5 km et vous allez reconstruire le récit de Jésus à partir de vos connaissances de l'Ancien Testament, et vous allez dire, ben voilà, oui, on parle de Jésus ici, on parle de Jésus là, on parle de Jésus là. Ça vous va? Vous n'avez pas deux heures, vous avez 5 km. Et en revenant, vous auriez quoi dans votre panier? Pas grand-chose. En tout cas, je parle pour moi. Quelqu'un voudrait suggérer quelque chose? Un récit, une anecdote, quelque part dans l'Ancien Testament? Jésus dit aux religieux de son époque, écoutez, vous sondez les Écritures, vous espérez avoir en elles la vie, et ce sont de moi qu'elles parlent. C'est pas exactement ça la citation, la chute m'échappe, mais c'est quelque chose comme ça. Jésus dit, mais les Écritures parlent de moi. Et c'est intriguant parce que quand nous lisons l'Ancien Testament, nous avons un peu de peine à entrer dans cette lecture-là. Où est-ce qu'on parle de Jésus dans l'Ancien Testament? Ou plus exactement, où est-ce qu'on parle de la résurrection d'entre les morts de Jésus, le Christ, le Messie? Et puis de la résurrection en général. D'où le titre, la résurrection avant Jésus. Voilà, on a l'explication. Alors, là, Jésus ne nous dit pas ce qu'il a dit à Cléopas et à son ami, mais il y a des précisions. Il commence par Moïse, ça veut dire, en termes hébreux, dans la culture juive, Moïse, ce sont les 5 livres de l'Ancien Testament, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Donc il est précisé que déjà là, il y a Jésus, quelque part, et sa résurrection. Et ensuite, il continue avec tous les prophètes. Et là, les prophètes, ça peut être aussi par inclusion, nous on sépare des fois en trois. Ça peut être bien sûr les psaumes, parce que David est un prophète également, et puis tous les prophètes que nous connaissons. Voilà, donc Jésus a pris le temps de faire des démarches. J'ai dit qu'on prendrait l'exemple de Pierre également. Vous vous souvenez de Pierre, on l'aime bien parce que c'est un peu le loser, c'est celui qui il est toujours un petit peu, voilà, il est sympa mais il se trompe souvent. Et là, il est bien différent, notre ami Pierre. C'est le jour de la Pentecôte, c'est à Jérusalem. L'Esprit Saint vient de descendre sur les apôtres. Il y a des manifestations puissantes et les auditeurs, le public s'étonnent. Et là, Pierre se lève et il prend la parole. Et il dit, ces gens ne sont pas ivres. Mais, et il commence à expliquer les choses. Et voilà ce qu'il explique, notamment dans Actes, chapitre 2. Il dit, ce Jésus que vous avez crucifié, il est ressuscité des morts parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle, car David dit de lui, ah, ben voilà, premier exemple, ça va nous aider. Pierre cite un psaume à l'appui de l'annonce de la résurrection de Jésus. Il n'était pas possible que les liens de la mort retiennent Jésus parce que, au psaume 16, et au verset 8, 9, 10, 11 notamment, voilà ce qui est dit. Je voyais constamment, je cite le psaume 16, je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur, il est dans la joie, ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton saint voie la corruption. Voilà, cette affirmation de la résurrection, elle est dans le psaume 16, claire. Mais pour nous, c'est léger. Mais c'est bien là, et c'est attesté par Pierre. C'est bien ce texte-là qui explique pourquoi ce Jésus n'est pas resté dans le tombeau, mais est ressuscité. Paul également. Paul a dû faire face à quelque chose d'un peu délicat dans une église en Grèce, à Corinthe. Il y avait tout un mouvement de Corinthiens qui commençait à mettre en doute la résurrection. Peut-être que les plus radicaux n'y croyaient pas du tout. Donc, à leur attention aussi, Paul va rédiger un chapitre particulier qui est le chapitre 15 de la première lettre que Paul envoie aux Corinthiens. Dans cette lettre, il dit ceci, en introduction de la lettre, du chapitre 15, il dit « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. » Donc vous remarquez que la mort de Jésus également est appuyée par les Écritures, c'est-à-dire les 39 livres que nous connaissons, nous, comme l'Ancien Testament. Donc, et Jésus est mort pour nos péchés, selon les Écritures, il a été enseveli, et il est ressuscité des morts le troisième jour, selon les Écritures. Vous voyez la difficulté pour nous ? Jésus-Christ est ressuscité des morts le troisième jour, selon les Écritures. Il n'avait que ce témoignage-là des Écritures. Mais il l'utilise et il l'atteste. Et Paul va terminer le chapitre 15, qui est très long. Si un matin vous vous levez, que vous avez un peu le blues, que ça ne va pas très fort, vous prenez 1 Corinthiens 15. Vous le lisez. Wow, ça booste. C'est vraiment très fort. Et Paul, à la fin, il dit ceci. Il dit au verset 54, « Alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. » C'est Ésaïe qui est cité là. Ésaïe, pour être précis, ah ben je n'ai plus la référence, c'est Ésaïe 50... Bon, je vous laisse chercher, hein. C'est quelque part sur ma feuille. Il cite donc une prophétie d'Ésaïe, la mort est engloutie, c'est la mort de la mort. Voilà comment Paul argumente auprès de ses frères et sœurs de Corinthe qui ont fini par remettre en question la résurrection. Il faut dire que la résurrection d'entre les morts en général et la résurrection de Jésus le Messie, c'est quelque chose de fondamental. Pierre l'a dit il y a 2-3 semaines, je vous le redis, c'est fondamental. C'est plus réel et plus... J'utilise des mots ambigus, je vais me corriger après. Hein. C'est plus réel et plus naturel que la mort. Je dis naturel, pas dans le sens de la référence à la nature, l'environnement, comme quoi biologiquement, en fait, ce qui est naturel, c'est la mort. Mais je le dis dans le sens de la nature de Dieu. Dieu est vivant. Et il est le Dieu des vivants. Souvenez-vous de cette réponse, et on va de nouveau retrouver le témoignage des Écritures. Souvenez-vous de la réponse de Jésus à ce mouvement religieux qui refusait de croire en la résurrection. Jésus leur dit, mais concernant la résurrection des morts là, vous n'y croyez pas, ok, mais vous avez entendu que Moïse appelle Dieu, je cite, c'est Exode au chapitre 3, verset 6, Dieu appela Moïse du milieu du buisson, le buisson ardent, et il dit, Moïse, Moïse, Moïse répond, me voici. Et Dieu lui répond, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants, parce qu'ils sont tous vivants. Waouh ! La nature même de Dieu, c'est la vie. Notre foi en ce Dieu qui sauve, c'est une foi dans notre résurrection, c'est-à-dire dans notre réveil de la mort à la vie. Et cette foi-là, elle est plus forte et plus indestructible que la certitude biologique de votre mort. Ok ? Quelle est l'approche scientifique et habituelle de notre vécu ? Il y a qu'une seule chose dans votre avenir qui est sûre. Vous allez mourir. Personne n'a jamais échappé. Vraiment personne ? Ah ! On va continuer dans les Écritures. Deux Rois, chapitre 2, verset 11. Élie. Comme Élie et Élisée continuaient à marcher en parlant, voici, un char de feu, des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Voilà dans les Écritures un prophète qui fait certainement figure de Christ qui s'en va. Où ? Mais il est parti là, qu'est-ce qu'il est parti faire ? On ne le revoit plus. Il est parti dans un char glorieux. Élisée s'écrie, il est extraordinairement impressionné, char de feu. Élie va auprès de son Dieu. Vous connaissez Élie, on a traversé toute la biographie d'Élie avec force détail. Vous avez vu toute sa misère, toute sa difficulté, toutes ses peines, sa profonde déprime, et le voilà. Manifestement, la réalité du Dieu vivant qui vient chercher son serviteur, son prophète, est bien supérieure à toutes ces morts qu'il a vécues dans sa propre vie et dans celle de son entourage. Mais il n'y a pas que Élie qui a vécu ça. Vous sauriez nommer celui qui l'a fait avant lui. Enfin, ce n'est pas lui qui l'a fait, mais c'est Dieu. Il y a un monsieur, oui, Enoch, tout à fait. C'est vieux cette histoire, hein. C'est au chapitre 5 de la Genèse, cinquième chapitre de la Bible. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Methuselah. Enoch, après la naissance de Methuselah, marcha avec Dieu. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Ah ben, qu'est-ce qu'il va faire avec Enoch ? Les gens ont cherché Enoch, ben non, on ne peut pas l'enterrer. Quelle est la pratique des hommes ? C'est d'enterrer leurs compatriotes. Et c'est un jour terrible. C'est un jour difficile à vivre. Et les scientifiques, les archéologues, alors il y a des paléogénéticiens, il y a des paléosociologues maintenant, c'est-à-dire des gens qui pratiquent des sciences qu'on pratique aujourd'hui avec les vivants, mais ils le font avec les morts. C'est-à-dire, les morts, ils étudient les restes de l'archéologie et ils resituent les choses dans leur contexte. Eh bien, qu'est-ce qu'ils constatent ? Ils constatent que les êtres humains ont enterré leurs morts. C'est même, nous dit-on, le commencement de l'esprit religieux. Parce qu'on pense à un au-delà, parce que ceci, etc. Les animaux n'enterrent pas leurs congénères, enfin, bon, il y a peut-être débat sur la marge, mais... Et là, toute la science, je dirais plutôt une certaine pseudo-science, va insister sur le fait que, voilà, l'esprit religieux commence à apparaître avec l'inhumation des congénères, et puis avec le développement des rites funéraires, etc. Donc, dans notre inconscient, nous, on modèle notre vision de la vie et du monde sur ça. On se dit, ah oui, c'est l'homme qui a créé la religion. C'est l'homme qui, à partir de son impasse sur la mort, a construit les systèmes de référence, de croyance. Et que petit à petit, ça s'est élaboré, c'est devenu plus sophistiqué, il y a eu des branches dans les... Donc, en quelque sorte, non seulement l'homme a créé les systèmes religieux, mais l'homme a créé Dieu, sous-entendu. Donc, c'est un renversement complet dans notre façon de voir les choses. Or, dans ce que Dieu dit déjà très, très, très tôt dans l'histoire de l'humanité, c'est qu'il dit « Ah, non, la mort n'est pas naturelle. Ce n'est pas du tout la fin d'un processus biologique. Point. » Souvenez-vous de la survenue de la mort. C'est la conséquence de quoi ? D'une promesse. D'une promesse que Dieu a tenue. Le jour où tu en mangeras, mourir, tu mourras. Dans l'hébreu, il y a cette répétition. Mourir, tu mourras. C'est sûr, c'est traduit en français par « certainement, tu mourras ». Et la mort est entrée comme un accident dans l'histoire de la relation de Dieu avec l'homme. Mais ce qui n'est pas un accident, c'est la vie de Dieu. Et la vie que Dieu va redonner à travers son Fils Jésus-Christ. Donc l'important de garder un œil sur effectivement la science, je ne voudrais pas avoir l'air de paraître comme un complotiste anti-scientifique, je ne rejette pas du tout les acquis de la science et les recherches archéologiques, mais j'attire votre attention sur les interprétations sous-jacentes qui ne sont plus cette fois-ci scientifiques, mais qui sont d'ordre philosophique et religieuse, qui vont dire « Ah ben voilà ». Et là, Dieu, dans sa parole, annonce clairement sa victoire sur la mort à travers des, on pourrait les appeler des têtes de pont, des gens qui sont là comme Enoch, comme Élisée, comme Moïse qui entend cette révélation. Abraham, il est vivant. Et Isaac aussi, Jacob. Voilà donc des marqueurs dans l'Ancien Testament. Maintenant, j'ai parlé de Moïse, j'ai parlé de Élie. Ça vous dit quelque chose, ce binôme, Moïse et Élie ? Alors, Adrien, dis-moi. La montagne de transfiguration, effectivement. Le jour de la transfiguration. Oh, ça, c'est un récit extraordinaire. C'est fabuleux. Si vous avez le privilège d'aller faire un voyage en Israël, faites un saut sur le mont Tabor, qui est supposé être cette montagne où Jésus a emmené avec lui Jacques, Pierre et Jean. Vous me corrigez, hein, parce que là, je n'ai pas vérifié, mais ils étaient bien trois, n'est-ce pas ? Jacques, Pierre et Jean, c'est un peu une mission secrète. Jésus leur dit d'ailleurs de ne pas parler de ce qu'ils vont voir, mais ils voient Jésus Moïse et Élie. Alors nous y sommes allés, Sylvie et moi, on nous a offert bien chaleureusement un voyage là-bas. On est allé un peu en solo, on n'a pas voulu monter dans les bus parce qu'on est un peu des rebelles. Donc on s'est dit, on se débrouillera bien nous tout seuls. On a trouvé le mont-à-bord tout seul et on a trouvé, arrivé au sommet, une colline de détritus, de papier gras, de poubelles, de sacs en plastique et tout. Oh là là, la désillusion terrible. C'est un choc, il faut vous y préparer. Ça va peut-être mieux maintenant, mais le surtourisme, que je ne peux pas critiquer puisque j'y étais, donc, mais ça laisse des traces. Donc du coup, en matière de collines, de montagnes, de transfiguration, ça a été un choc. Et ce n'était pas que là, hein. Il y a d'autres endroits. Enfin bref, on est arrivé à se déplacer dans un coin un peu plus paisible, sous des pins, avec une herbe rase, et on a pu relire ce texte-là, la transfiguration. Moïse, Élie et Jésus qui papotent. Ils discutent. Ils parlent ensemble. Ce sont des familiers. Ils se sont déjà rencontrés. Ils se connaissent. Et quel est le sujet de leur conversation ? Le prochain départ de Jésus de Jérusalem. Le mot « départ » veut sans doute dire l'ensemble des événements cruciaux du salut accompli par Jésus, sa crucifixion, sa résurrection, son ascension et le don du Saint-Esprit. Je pense que le mot « départ » signifie ça. Et ça m'a fait penser à Daniel, ce qu'il a dit la semaine dernière avec des fois, je me demande si le texte biblique, il n'y a pas un côté un petit peu taquin, un peu espiègle, un petit peu presque, pour mettre un peu d'humour. Parce que quand Moïse rentre dans la nuée sur le mont Sinaï, alors je change, hein, je ne suis plus sur le mont Tabor de la Transfiguration, je bascule sur ce que Daniel disait la semaine dernière, à savoir, eh bien, Moïse et Dieu discutent. Ils s'entretiennent. Et voilà cette proximité. Je retourne sur le mont de la Transfiguration, trois personnes, Jésus, Moïse, Élie, qui discutent en communion et en communication. Voilà le Dieu des vivants sur des histoires de l'Ancien Testament. On continue on en a pour 5 km, j'avais dit. On arrive à peu près à 2,5 km, là. Il nous reste Abraham, on va voir un peu Joseph, David, Ézéchiel. Abraham, le sacrifice d'Isaac, ça vous dit quelque chose. Voilà typiquement un récit central de la foi d'Abraham en œuvre. Dieu dit, va, offre ton fils Isaac. Et qu'est-ce qu'il est dit de cet acte dans Hébreux, chapitre 11? Je cite beaucoup de textes bibliques ce matin, ça peut être un peu lourd. Je vais essayer de le rendre le plus léger possible. C'est comme un bon gâteau au chocolat. C'est bon, mais il arrive un moment où on n'en veut plus. Alors, là, Abraham est en train de cheminer avec Isaac, avec le bois pour le sacrifice. Et voici ce qu'il est dit dans Hébreux, chapitre 11, verset 17. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac. Il pensait que Dieu est puissant. Vous pensez que Dieu est puissant ? Il pensait que Dieu est puissant. Même pour ressusciter les morts. Aussi, Abraham retrouva son fils Isaac, ce qui est une préfiguration. Voilà donc Jésus qui est préfiguré, dessiné déjà dans les pères de l'Église, du peuple de Dieu, pères dans la foi. Abraham croyait à la résurrection. Il a bien fait parce que Dieu est puissant, oui, pour ressusciter les morts. Ça me fait penser à Joseph, que nous avons aussi bien connu à travers les prédications détaillées. Toute l'histoire de Joseph, le fils de Jacob, un des fils de Jacob. Toute sa vie à Joseph, c'est une préfiguration de Jésus. Vous vous souvenez comment ça a commencé, à mal commencer? C'est Joseph qui est prophète, il a la parole de Dieu dans sa bouche, il annonce les événements qui vont venir, mais pour ça, il va être mis à mort, ou presque. Il va être mis dans un puits, dans une caverne, dans une cave, je ne sais pas exactement tous ces termes, dans une... Voilà, c'est ça que je cherchais, une citerne, un truc dans le sol. Il est mis là-dedans comme mort, parce qu'il suffira ensuite de le tuer véritablement. Il échappe par l'intercession d'un autre frère, il va être vendu, mais il est comme mort, puisque ses habits de fête que Jacob lui a offerts sont maculés de sang et vont être apportés à son père. Donc son père voit Joseph comme mort. Et d'ailleurs, quand on va lui annoncer sa résurrection et sa position de vice-roi d'Égypte, Jacob, son cœur resta froid. Donc toute l'histoire de Joseph est l'histoire déjà du Dieu vivant qui ressuscite d'entre les morts et amène avec lui sa famille, son peuple, ses enfants. Nous avons vu un autre prophète, qu'on n'appelle pas prophète d'habitude, c'est David, mais Pierre dit que c'est un prophète. Il a rédigé plusieurs psaumes où, si on lit attentivement et qu'on le lit avec cette affirmation de Jésus du chemin d'Emmaüs, on se dit oui, il est effectivement question de résurrection. Le discours des savants et des biblistes sur les psaumes ont tendance à dire la foi des Hébreux et de la foi juive était très incertaine sur le Sheol, le séjour des morts, etc. Je crois que ça doit être remis en question, cette affaire-là. Je crois qu'il faut le questionner, cette affirmation, parce que, d'abord, Pierre et Paul le remettent en question, mais aussi parce que le psaume 23, par exemple, qu'est-ce qu'il veut dire quand il dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Attendez. Dieu dit qu'il est avec vous dans la vallée de l'ombre de la mort. Je comprends comme la vallée de l'ombre de la mort comme le début de la fin. C'est la vallée de l'ombre. Quand on voit l'ombre d'un arbre, c'est que l'arbre n'est pas loin. La vallée de l'ombre de la mort, c'est le début du moment où l'on sent que l'on va partir. Aller là où tous les hommes vont. Et là, Dieu dit, tu es avec moi. Voilà comment je le lis. Il n'y a pas d'équivalent dans le Nouveau Testament, ça n'engage que moi, on peut avoir une autre interprétation. Ça fait partie de notre diversité. Mais voilà comment je lis le psaume 23. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Le tu ici, c'est Jésus. Toi, Jésus, tu es avec moi, tu es même devant moi. Tu es devant moi, tu as ressuscité, tu t'es réveillé d'entre les morts et je suis avec toi. Un dernier, Ézéchiel. Ça vous dit quelque chose? Ézéchiel chapitre 37. C'est extraordinaire. On parle de vallée de l'ombre de la mort. Voilà Dieu qui prend son prophète, il l'installe au milieu d'une vallée remplie d'ossements secs. Et Dieu demande à Ézéchiel... ces morts peuvent-ils revivre? Ah, là, là, il botte en touche un peu, Ézéchiel, quand même. On va le lire, là. L'Éternel me transporta par son esprit, me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Je passe plus loin. Il me dit, prophétise sur ces eaux, dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Et Ézéchiel va le faire. Ainsi parle le Seigneur, c'est Ézéchiel qui prophétise. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Ézéchiel s'arrête. Ils reprirent vie. Ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Et en conclusion, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres. Allez, avec 1 Corinthiens 15, il faut lire Ézéchiel 37. Un matin de déprime, Ézéchiel 37, le lendemain, allez, 1 Corinthiens 15. Ce n'est pas des affirmations extraordinaires. C'est impensable. Vous n'allez pas expliquer ça aux gens. Et c'est pourtant ce qui a bouleversé tout le bassin méditerranéen. La prédication de la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Le test de la paella. On arrive au bout. Alors, le petit enfant vous tapote la manche, il vous regarde droit dans les yeux et il vous dit « Ah, Jésus, il est là !» Vous tournez la tête vers l'enfant, il dit « Comment ça que Jésus est là ?»« Oui, il est là, mais il est avec nous. » « Non, non, Jésus, il est là, il est sur la table du fond, il parle avec Gigi, Vincent et Garance. » À cet instant précis, quelle est votre réaction? Vous lui répondez quoi à cet enfant? Alors, selon la réponse, vous avez entre 0 et 10. Qu'est-ce que vous allez répondre à ce petit enfant qui vient de vous annoncer que Jésus est assis sur une table et qu'il discute avec 3 d'entre vous? Une proposition, au fond. Tu as trop bu. Une autre suggestion? Ah oui, il m'a piqué ma place. Oui, c'est possible. Oui, comment tu sais que c'est Jésus? Ah là, c'est déjà une question intéressante, parce que vous êtes déjà dans la possibilité que cette situation, elle est effectivement valide. D'autres trucs moins glamour, mais c'est même si c'est pas facile à dire, mais... Pardon? Robert? Voilà. Ça, c'est après la prédication, Robert, peut-être. Oui, bien sûr, la première chose, c'est je lasse tout et je vais discuter avec Jésus. Sauf que quand même, il peut le faire. En fait, il est peut-être assis parmi nous. Et il va me dire, Gérard, laisse-moi la place, ce que je ferai volontiers. Mais la vérité, c'est peut-être que votre enfant, là, vous allez le regarder. Au mieux, vous n'allez peut-être pas vouloir lui répondre. Vous allez dire, écoute, c'est pas drôle de faire des blagues avec Jésus. On peut faire des blagues, des tas de trucs, mais pas avec Jésus. Ou d'autres réponses comme ça. Ce serait intéressant d'essayer de les lister. Mais la réponse, c'est Jésus est ressuscité d'entre les morts. Et tout ceci pose la question de notre rapport à la maladie, à la souffrance et à la mort. Je vous cite 2 témoignages, 2 amis, des témoignages récents d'il y a quelques mois. Un ami est atteint d'un cancer, un cancer, peu importe les détails, cancer qui n'est pas un cancer facile. Donc, il m'explique que dans toutes ses relations, sa famille, on le plaint, on l'accompagne, on l'encourage, etc., mais que la tonalité est dans la tristesse. Et lui me dit, cet ami, « Mais pourquoi vous êtes triste? Vous devriez vous réjouir. Moi, je vais ressusciter d'entre les morts, peut-être, bientôt. » Alors, je le connais bien, donc je ne pense pas du tout que c'était une parole facile, et je lui dis « Oh, c'est pas sympa pour ta famille et tes amis. » Elle dit « Oui, c'est pas sympa, mais c'est comme ça. » C'est la réalité naturelle, entre guillemets, du Dieu vivant. un autre ami atteint du même cancer qui lui va en mourir. Le précédent ami, il est en rémission. Le second ami m'a donné ce témoignage. Moi, je ne prie pas pour ma guérison. Je ne demande pas à Dieu de me guérir. Oh, j'ai dit, mince quand même. Ça m'a posé question, ces deux témoignages. Je me dis, quel est notre rapport? Alors, je ne suis pas en train de prêcher, encore une fois, le rejet de tous les moyens médicaux, etc. Allez vous soigner dans toute la mesure du possible, etc. Mais je parle du rapport, de la perception qu'il y a et de la mort et de l'espérance de la résurrection. Alors, pour vraiment terminer, après le test des acquis, du contrôle des acquis, est-ce que notre foi est bien solide? Est-ce qu'elle est établie fermement? Je constate dans les actes que cette prédication de la résurrection est devenue pleine et entière quand le don du Saint-Esprit a été fait à l'Église. Et là, il n'y avait plus d'enfantillage, il n'y avait plus d'hésitation, il n'y avait plus d'à peu près. Les témoins étaient entiers. Et ça m'a fait penser à cette conclusion assez particulière de Jésus concernant cette histoire de vous, quand un enfant vous demande du pain, vous ne lui donnez pas un caillou. Quand il vous demande un poisson, vous lui donnez pas un scorpion. Donc si vous, méchants comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Seigneur donnera l'Esprit à ceux qui le lui demandent. Et là, en écho à cette parole de Jésus, je pense à Romains, le témoignage de l'Esprit. L'Esprit témoigne à nos esprits que nous sommes enfants de Dieu. Je crois que le problème, ce n'est pas croire pour comprendre ou comprendre pour croire, mais c'est de dire, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Seigneur, par ton esprit, témoigne à mon esprit obtus et paix que tu es ressuscité d'entre les morts et que tu m'amènes avec toi. Voilà notre confiance. Amen.